RCF. Et maintenant, nous avons deux invités dans la matinale et je reçois Bernard Gors et Jean-Pierre Denis. Bonjour Bernard Gors.
Bonjour.
Journaliste au quotidien La Croix et bonjour Jean-Pierre Denis.
Bonjour.
Journaliste et directeur du développement éditorial du groupe Bayard. Merci d'être avec nous pour évoquer ces résultats. La France risque-t-elle de devenir ingouvernable à la fin de la semaine après les résultats du RN, Bernard Gors?
Ah bah écoutez, j'allais dire, on va attendre encore un tout petit peu, au moins quelques heures, puisque les candidats ont jusqu'à demain, mardi, 18h, pour dire s'ils se maintiennent ou pas.
Et ça, c'est très important.
Et c'est très important, parce qu'en fonction du nombre de triangulaires ou de duels, on y verra un peu plus clair sur les chances des uns et des autres de résultats le 7 juillet prochain. C'est sûr que s'il y a... Moins il y aura de triangulaires, hein, plus il y aura de désistements pour un front républicain, comme on ouais. l'appelle, moins le Rassemblement national a des chances d'atteindre la majorité absolue. Alors après ça, qu'est-ce qui se dessinera exactement sur les trois grands blocs maintenant qui dominent la vie politique française? On le verra, mais c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, ce lundi matin, lendemain d'une élection choc, on ne voit pas effectivement un scénario qui permettrait de dire bah oui, il y aura une majorité.
Jean-Pierre Denis, vous souscrivez, c'est le flou ce matin.
Ah, c'est très difficile de prolonger les courbes et de regarder ce que peut être une dynamique électorale entre deux tours. D'ailleurs, le camp macroniste en a fait les frais à la dernière élection législative où finalement ils n'ont eu qu'une majorité relative. Il faut toujours s'en souvenir. Cela dit, le scénario ce matin, à l'heure où nous parlons, le plus probable, c'est celui d'une crise de régime, osons le mot, parce que une assemblée dans laquelle on ne peut pas élire une majorité, et Jordan Bardella a beau se proclamer déjà Premier ministre de cohabitation, il n'y est pas encore. Donc le scénario le plus probable à l'heure où nous parlons, c'est celui d'une crise de régime, parce qu'il n'y aura pas de majorité, et on n'est pas dans une atmosphère, un état d'esprit, une culture politique, contrairement à ce qu'on peut dire dans d'autres pays, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, où on finit par trouver une solution pour sortir d'une situation dans laquelle il n'y a pas de majorité. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas notre culture politique et ce n'est pas l'état d'esprit des Français aujourd'hui.
Hier soir, sur le pupitre de Marine Le Pen, on pouvait lire « L'alternance commence ». Effectivement, le Rassemblement national et la Jordan Bardella notamment annoncent être Premier ministre. Certains disent qu'il y a un responsable à cela, c'est Emmanuel Macron. Tout le monde dit évidemment qu'il a perdu son pari. Jusqu'à quel point son pari est-il perdu, Bernard Gors?
Ah ben ça c'est sûr qu'il a perdu son pari. Hein. C'était très très risqué de provoquer cette élection là anticipée. Mais il voulait de la clarté, il voulait faire confiance aux Français. Ouais. Ben non, ça n'a pas marché parce que il a été écrasé tout au long de cette campagne par une double dynamique.
Pourtant il a beaucoup
parlé. La dynamique du RN et la dynamique anti-RN. Et au milieu de ces deux dynamiques, pris en sandwich, pris en étau, il n'a pas réussi à créer ce petit mouvement qu'il espérait.
Pourtant deux tiers des électeurs se sont déplacés hier. C'est inédit depuis au moins 25 ans. Alors, ouais. Tous les acteurs politiques se réjouissent de cette participation record, mais les mêmes déplorent le succès inédit du RN. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe, Jean-Pierre Denis?
Je pense que quand on écrira l'histoire des grandes catastrophes politiques et des pires bourdes commises...
Il y avait Chirac 97.
Ah ben non, mais Chirac, c'est petit joueur, parce que finalement, Chirac, on est resté dans une alternance classique gauche-droite. Là, on est dans une autodissolution, en fait, d'un pouvoir, d'un gouvernement, d'une majorité certes relative, mais une quasi-disparition, en fait, du macronisme. Donc, ça restera comme l'une des pires erreurs politiques commises dans l'histoire de nos républiques.
Et pourtant, il y a cette participation qui est très élevée.
Oui, alors... Participation très élevée. Je regardais les dernières estimations, enfin les enquêtes, les analystes avant élection. Tout le monde disait, il semble que cette participation très élevée va profiter un petit peu de façon égale aux trois blocs. Eh ben non. Quand on voit ce qui s'est passé dimanche, très clairement, il faut regarder le nombre de voix. Et on voit que le Rassemblement national cumule 12 millions d'électeurs, ce qui est énorme. Et beaucoup plus, il y a une vraie dynamique, c'est beaucoup plus qu'en 2022. Alors que en pourcentage, le Front de Gauche, le nouveau Front Populaire, excusez-moi, fait un bon score, hein, 28%, bon, c'est pas mal. Mais en nombre de voix, il n'augmente pas. Donc, il y a une dynamique qui s'est produite et qui a quand même de mobilisation qui a nettement profité au RN.
Mais pourquoi est-ce que les abstentionnistes des européennes votent-ils Rassemblement National ? On disait que ceux qui s'étaient déplacés avaient déjà voté
Alors,
Rassemblement National.
Pardon, c'est pas tout à fait exact. Hein. On peut pas dire ça aussi mécaniquement. De toute façon, c'est toujours assez compliqué, à moins d'avoir des analyses vraiment détaillées, de parler à la place des abstentionnistes, puisque par définition, ils s'abstiennent. Donc, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'offre politique, a priori, telle qu'elle est formulée. Donc, il faut faire un petit peu attention quand on parle des abstentionnistes. Après, il y a une participation élevée. Elle n'est pas non plus extraordinaire, hein, compte tenu des enjeux, puisqu'on est vraiment à un carrefour historique. Est forte, mais elle n'est pas non plus extraordinaire. Il y a une mobilisation. Peut-être sera-t-elle d'ailleurs un peu plus forte au second tour. C'est paradoxal parce qu'au second tour, le choix est plus faible. Mais souvent, il y a un sursaut de mobilisation pour le second tour. Mais on n'est pas non plus dans un chiffre...
Vous vous attendiez à plus ?
Non, c'est un chiffre important compte tenu de la...
67%.
C'est un chiffre effectivement important. Voilà, c'est un chiffre très important, mais ça reste...
Bernard Gorce.
Oui, non, je rappelle qu'en 2022, on décrivait beaucoup un phénomène où c'est plus simplement des gens qui votent pour manifester leur colère, qui ne votent plus, qui ont décroché. On disait qu'il y a une bonne partie de la population française qui a décroché de la vie politique. Bon, voilà, cette élection... On peut s'en réjouir ou on peut s'en attrister ou s'en effrayer, mais il y a un raccrochage d'une partie de la population. On va voir ce qui va se passer dimanche prochain. Mais c'est peut-être le seul petit aspect positif sur cette élection-là.
Évoquons à présent le nombre très important de triangulaires, assez inédit pour un scrutin de législative dans la Ve République, et ces appels assez nombreux du Nouveau Front Populaire, également du bloc centriste, que le troisième candidat se désiste au profit du candidat républicain. Est-ce que ces appels au désistement peuvent encore marcher ? Est-ce que d'ici demain soir, moment où il faudra que ces candidats n'aillent pas en préfecture déposer leur candidature, est-ce que ces appels peuvent fonctionner ?
Il faut déjà que l'appel soit clair, j'allais dire. Alors, à gauche.
À gauche, c'est très clair.
C'est assez clair, hein, je crois pas qu'il y ait trop de mystère. Par contre, là, se pose la question, c'est quel sera l'effet de cet appel. On sait bien qu'une partie des électeurs de gauche ont dit déjà dans le passé, Macron, plus jamais, on l'a déjà fait une fois, on l'a déjà fait deux fois, maintenant on recommencera plus. Donc on verra. Et deuxièmement, pour le bloc majoritaire, l'appel... Pour l'instant, n'est pas clair. Hein, il y a eu hier soir le Attal, qui est le Premier ministre, qui a dit ben il faut se désister, mais sans prononcer le mot LFI. Et quelques minutes plus tard, il y a Aurore Berger qui disait ben non, pas question de se désister si c'est un candidat LFI qui est en deuxième position. Donc une sorte de nini. Donc c'est pas clair.
C'est d'autant moins clair que ce sera un ensemble de décisions personnelles. Et je ne suis pas sûr que les consignes des états-majors dans un contexte aussi agité aient vraiment du poids. Je ne suis pas sûr que
auprès des électeurs
auprès des candidats qui sont en troisième position et qui ont un choix à faire, parfois même en deuxième position, et qui ont un choix à faire. Et je pense que c'est un ensemble de décisions individuelles qui va tenir compte d'un ensemble de contextes locaux, c'est-à-dire que quel est le candidat, mettons, de la droite qui serait face à un candidat, mettons, du Nouveau Front Populaire, par exemple, hein, pour exemple de situation, ça dépend. Donc si c'est un candidat qui est lui-même très à droite face à un candidat du Nouveau Front Populaire qui serait très LFI, c'est pas la même chose qu'un socialiste face à un centriste.
Ça c'est vis-à-vis des candidats, mais vis-à-vis des électeurs. Est-ce que les électeurs sont encore aujourd'hui prêts à entendre les consignes d'un parti politique ?
Il arrive assez souvent dans des élections, encore une fois, une élection législative, c'est un ensemble d'élections locales. Il arrive très souvent que des candidats qui sont en ballotage dit défavorable remontent la pente. Ça veut dire qu'ils ont un ancrage local et qu'il y a à ce moment-là des électeurs qui arbitrent différemment de ce qu'ils avaient fait au premier tour. Donc ce sont des situations qui sont assez fréquentes.
Bernard Gorce, vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Pierre Denis ?
Oui, tout à fait. Et après, tout ça est quand même, j'allais dire, un peu irrationnel. Mais enfin, il y a énormément d'émotions dans ce scrutin-là. Et donc, émotion, raison, vous voyez bien que c'est pas tout à fait la même chose. On a vu des députés, des candidats Rassemblement National être mis en cause pour des propos extrêmement diffamants. Hein, notamment un candidat qui visait Najat Vallaud-Belkacem et sa binationalité. députés. Il arrive en tête largement dans sa circonscription. Donc on se dit que finalement, même quand les candidats font des faux pas, il n'y a rien qui les atteint. Donc c'est très très difficile de savoir comment va réagir l'opinion.
En un mot, qu'attendre de cette semaine ? Est-ce que ça va être une semaine très, très bousculée, très, très chahutée ? Au contraire, il va y avoir une normalisation ? On va un peu laisser reposer les résultats qu'on avait pu observer hier ?
Non, ce n'est pas une semaine bousculée, c'est au moins une année bousculée que nous avons devant nous. J'ai dit une année parce que s'il y a une assemblée qui n'a pas de majorité, on ira dans un an vers une nouvelle élection après une année vraiment extrêmement troublée. L'hypothèse autre, évidemment, c'est une victoire du Rassemblement national. On voit qu'on rentre dans une période de trouble. Oui, on rentre profondément dans une période de trouble.
En un mot, Bernard Gorce.
On va voir ce qui va se passer aussi de façon très précise dans les jours qui viennent pour un été qui s'annonçait comme un été de fête et qui, pour l'instant, prend plutôt le chemin d'un été de guerre, sans trop abuser des mots.
De ce mot, vous mentionnez sûrement les Jeux Olympiques en parlant de la fête. Merci beaucoup, Jean-Pierre Denis et Bernard Gorce, d'avoir été ce matin sur RCF.